chose. Deuxième chose, monsieur n'a pas été à l'école publique.
Il est fort, gamin, à la mine.
Non, mais il faut être très clair, il faut savoir qui nous parle. Il n'a pas été à l'école publique, mais privée. Genre, donne pas d'autres leçons, c'est pas ce qui se passe dans le public, encore moins dans le 93 ou le 94 ou les banlieues défavorisées. Troisième chose, il n'est même pas parent, ce monsieur. Donc il parle de choses dont il ne sait rien. Et maintenant, on va aller sur le sujet qui nous intéresse. Il a osé proposer des propositions fantaisistes. Je viens d'entendre un truc hallucinant. Monsieur veut faire un casier judiciaire scolaire. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un fait une bêtise et quand il a 6 ans, ben, à son bac, ce sera noté. Vous vous rendez compte le délire un peu? Cette façon de sanctionner, à vie, quasiment, c'est le marqueur rouge.
Ah, c'est bien résidence, non?
Oui, ouais, quasiment.
Pour les primaires.
Ensuite, juste, j'avance parce que ça va être intéressant. J'ai quand même fait une petite vérification. Parce que cette histoire, le parent démissionnaire, je vais souvent en parler le média, et cette bêtise revient en permanence. Alors, on a fait quelques petites études. Certains ont fait le travail, des gens, des acteurs de terrain que je connais d'ailleurs. Ils ont fait une étude sur 518 familles, d'accord? Et ils se sont rendus compte pour 94% des parents, il n'y a aucune démission, mais une application totale. Alors que les conditions...
C'est intéressant.
Il n'y a pas de statistiques. On balance une rumeur crasseuse, ça a été dit par Pierre-Henri tout à l'heure. On part de vulgaires petits incidents isolés qui sont des faits divers. Je veux dire, le petit Grégory qui a été tué à l'époque à la Vologne, c'était un fait divers dont on a parlé pendant des années, alors que des Grégory, il y en a 10 par an. Eh bien, on parle de cela, pourquoi? Pour mettre la focale sur ce qu'il considère comme étant des éléments perturbateurs, souvent pauvres, souvent à la périphérie, donc l'exclusion spatiale, souvent, évidemment, parfois étrangers, mais souvent montrés du doigt. Donc tout ça pour dire qu'il y en a ras-le-bol de ces discours. Moi, quand j'ai un Premier ministre qui parle d'un sujet qui n'est pas le sien, et qui ne donne même pas d'éléments d'études sérieuses quand on parle de choses, et c'est là où je me pose la question sur la gauche et la droite, parce que la gauche, c'est quand même un peu plus des cabesses. Hein. Quand on parle de choses, il faut des bases, des études, des acteurs qui font le travail de terrain, il faut des professionnels qui parlent aux parents. Et les parents, ils disent quoi? Ils disent pas qu'ils ne sont pas impliqués avec leurs enfants, ils sont impliqués à plein régime. Est-ce que vous imaginez une mère qui donne naissance à un enfant dans la douleur? Est-ce qu'on peut imaginer que cette dame, on n'a rien à faire de son enfant? Si elle en a rien à faire, c'est qu'elle a un problème de santé. Et bien simplement, ils disent quoi? On ne sait pas faire aujourd'hui.
C'est le coup de gueule de Gamal Abidine.
C'est normal, il y en a marre. C'est de la propagande d'extrême droite, c'est crasseux. Il y en a marre de voir que des gens qui ne sont pas à l'extrême droite répercutent ça. Donnez des études sérieuses, dites voilà, il y a des parents pour un pourcentage de temps, après on discute. Et je vais finir simplement pour dire. Françoise Dolto a dit quoi? Elle dit il ne faut pas de choses enfants. Vous mettez une claque à l'enfant, ça va pas. Donc les parents, ils savent plus quoi faire. Comment on éduque les enfants? Et quand ils parlent aux acteurs qui s'occupent des enfants, associatifs, et surtout le corps enseignant, et puis le corps des gens qui s'occupent de la jeunesse, la prime enfance, comment fait-on pour parler aux enfants sans les traumatiser? Voilà où l'on est. Donc ils sont très impliqués, mais ils savent pas comment faire. Mais ils ne démissionnent pas, c'est un mensonge. C'est pas parce qu'on a deux, trois brebis galeuses, vous avez un élève qui fout la pagaille dans une classe, en troisième B, toute la troisième B est une classe de délinquants. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Donc moi, j'en ai marre d'entendre un type qui est Premier ministre, qui a un rôle essentiel, nous expliquer qu'il y a des parents démissionnaires, qu'ils donnent des statistiques.
Bon, bah écoutez, le coup de gueule, on appellera ça de Gamal Abidine. Hassan Mbarek.
Ben, je vais être court, je suis totalement d'accord avec les analyses de mes collègues autour de la table. Bon, moi, je trouve regrettable que le président de la République, M. Macron, ait donc décidé de confier au Premier ministre une mission qui est, je crois, la mise en place d'un Grenelle sur l'autorité. Donc la trame est très simple, hein, c'est d'avoir de l'autorité partout et pour tous. Et c'est au fond, il est dans la lignée un peu de la tendance générale politique aujourd'hui, où on voit que le Front National a fait un score relativement important. On essaie de s'emparer des thématiques qui font le succès du Front National.
Et pourquoi pas?
Et c'est problématique.
Oui,
parce que le Front National ment.
Sauf que le petit souci, là où j'ai un petit problème sur les mesures, c'est la responsabilité des parents. Lorsqu'on sait comment ça se passe un peu dans les quartiers, dans les banlieues, les parents veulent que leurs enfants réussissent. Et les parents sont souvent dépassés par des enfants aujourd'hui où vous n'avez plus d'autorité. Alors si en plus vous avez des familles monoparentales, c'est très compliqué. Mais on en avait discuté la dernière fois, lorsqu'on rentre dans la cellule familiale aujourd'hui, où on dit au père, ben voilà, vous ne pouvez pas forcément exercer votre autorité d'une façon assez un peu patriarcale, quoi, dans un système un peu patriarcal, ben, y a des dérives. Et aujourd'hui, vous avez des gamins de 15 ans, 16 ans, ben, encore il n'y a pas très longtemps, moi il y a quelques jours, j'ai eu un problème avec un gamin qui m'a manqué de respect. Je lui ai dit, mais attends, j'ai l'âge de ton père. Non? Les types sont dans un film. Il n'y a plus de respect. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une démission. C'est pas que forcément il y a une démission des parents, c'est que au fond, on est rentré dans la cellule familiale. On est rentré dans la cellule familiale et voilà, on a minoré, on a marginalisé le rôle du père et ça pose de vrais problèmes aujourd'hui. Ouais. Et maintenant que les pouvoirs publics viennent en disant mais démerdez-vous, excusez-moi pour dire démerdez-vous aux parents pour régler cette histoire, mais là on paye on paye une chose, un laisser-aller pendant plusieurs années.
J'irai déresponsabilisation des parents, c'est plutôt ça.
Pierre-Henri.
Oui, on voit bien que c'est un sujet, qui est marginal par le nombre, mais qui est très important et que l'on doit traiter, ensemble. On peut pas arriver comme ça sur une scène et puis en réalité annoncer une série de mesures avant même qu'une concertation entre les professionnels du secteur ait eu lieu. Et j'ajoute que oui, il y a un phénomène nouveau qui est très important et qui est celui des familles monoparentales, où la mère va être obligée de se lever le matin très tôt pour aller gagner sa vie, pour ranger les bureaux, nettoyer les bureaux, etc., sur des métiers relativement précaires, et où évidemment on va placer le gamin devant un portable, devant des réseaux, etc. Oui, et ensuite on va s'étonner que le gamin soit dans une réalité matrice, virtuelle, dans un autre monde, et où la violence est quelque chose de totalement banalisé. Donc oui, il faut des mesures, et il faut des mesures notamment avec les géants d'Internet, parce que là vraiment on a un vrai souci avec les réseaux. Donc on voit bien que c'est pas par des mesures Yaka Faucon qu'on va y arriver, parce que s'il s'agit de taper sur les familles les plus précaires, bon bah ça c'est facile, hélas ça ne résoudra rien.
Mais simplement pour dire que ce qu'il faut penser en termes, parce que moi j'aime bien les critiques tout le temps qui arrivent sans fondement, je précise quand même, il n'y a pas de stats encore une fois, c'est souvent une récupération des termes de l'extrême droite qui préfère stigmatiser, montrer du doigt plutôt que d'expliquer la situation. Ultralibéral, hein, ils sont pas là pour faire de l'État, ils sont là pour faire du privé, l'extrême droite, il faut être très clair. S'ils arrivent au pouvoir, vous allez voir ce qui va rester des hôpitaux. Mais simplement pour dire que les acteurs associatifs, quand on les connaît, les travailleurs sociaux qui font un travail extraordinaire sur le terrain, ont tous d'abord des moyens dérisoires, mais surtout, et c'est le plus important, quand il y a un problème avec un enfant, si toute la société travaille de concert avec les parents pour les accompagner, le problème est réglé assez rapidement. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y a un problème avec l'enfant roi, maintenant, c'est comme ça qu'on les appelle, et bien les flics, ils arrivent, mais laissez-le jouer avec la PlayStation, laissez-le sortir, pourquoi vous l'emmerdez? Donc on déresponsabilise les parents, on leur a mis du dolto dans la tête, on leur a mis des méthodes pas de gif et tout, et bien, vraiment, les parents savent pas quoi faire. Donc effectivement, c'est pas qu'il y a une démission, c'est qu'on leur a retiré l'autorité parentale qui était naturelle, et au bout d'un moment ils ont pourquoi les problèmes. Et encore une fois je précise, 94% des parents sont très impliqués. Les rares qui ont un problème, c'est effectivement les monoparentales, c'est les gens qui sont dépassés.
Abdeslam Itzach, et ensuite après Hassan.
Oui,
je vous ai pas oublié, Hassan.
Je rejoins complètement mes co-débatteurs et sur l'idée de mettre en place un conseil de discipline pour les primaires, c'est encore une fois mettre de la difficulté dans la difficulté. Vous imaginez, ça ne marche déjà pas au collège. Vous voulez mettre ça en primaire. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme mesure? Une exclusion temporaire d'un primaire? Enfin, vous voyez bien qu'on marche sur la tête et il n'y a qu'un message, c'est un message politique envoyé à l'extrême droite pour dire, vous savez, nous aussi, on sait être ferme.
On sait faire une sécurité à l'école, quoi. C'est ridicule.
Hassan Bari.
Juste pour rebondir sur ce que disait Pierre-Henri, sur la responsabilité des réseaux sociaux et des grandes boîtes de l'Internet. Bon, j'étais assez surpris que le Premier ministre n'ait pas abordé la question, puisque quand même, ils sont quand même responsables en partie de cet environnement autour des ados. Mmh. Et le fait que le Premier ministre et le Président de la République n'a pas évoqué, je dirais, cette problématique, je trouve qu'il y a une déficience quelque part. Et pour revenir aussi à ce que disait Gamal, il est quand même important qu'on s'appuie, si on devait faire un travail sérieux en termes de recommandations, de propositions, qu'on s'appuie sur des études sérieuses de sociologues, des études statistiques. Et donc là, je pense que on est juste dans une posture politique qu'il s'agit de faire de l'autorité. Et le pire, c'est que, en toute honnêteté, M. Attal n'incarne pas l'autorité. Ben, on voit bien, il y a un problème dans ce gouvernement avec les gens. Je veux pas être médisant, mais on voit bien que ce sont des gens, bon, pour certains, qui ont jamais occupé de métier, hein. Ça fait light, quoi. Et ils incarnent pas l'autorité. Donc, tout ça, c'est pas très sérieux.
Allez, on va passer au second sujet, sauf s'il faut marquer la pause. Vous savez quoi, je veux parler aussi de la conférence Mélenchon, mais la conférence Mélenchon qui, évidemment, vous savez quoi, Hassan dit la chose suivante à propos d'un éventuel recours. Mes avocats y travaillent, c'est en cours concernant, vous savez, cette fameuse conférence Mélenchon-Hassan qui a été annulée à Lille. Et figurez-vous qu'entre eux et les filles, et la gauche, c'est-à-dire le PS, eh bien, le ton est monté d'un ton supplémentaire, surtout le PS. Ils disent clairement, Mélenchon joue un jeu très dangereux. Abdeslam Itach.
Oui, en effet. Alors, je vais y aller, mais alors tout droit. Je vais vous dire, le parti où il y a le plus de sionistes au mètre carré, c'est le Parti Socialiste. Donc, forcément, ils sont en confrontation directe avec un parti qui est justement le combat. Non, non, mais j'assume mes propos et. Je le répéterai. Et c'est bien le problème. Vous savez, lorsque
vous appuyez sur quoi pour dire ça, Abdeslam Itach.
Non, mais
ça veut dire qu'il y a un comptage. Attendez, là, il y en a un, là, il y en a un deuxième, là, il y en a trois.
Non, il suffit de voir les déclarations des leaders politiques du Parti Socialiste.
C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est une tradition. Mais au démarrage, effectivement, c'était socialiste.
Il suffit d'entendre Julien Drey, je pense.
Oui, mais c'était au départ. C'était un socialiste.
Julien Drey, Kouchner et consorts. Oui, donc, vous voyez les exemples.
Enfin, je sur quoi on s'appuie pour ça, mais bon.
Ouais, je trouve que c'est la manière la plus.
Non, mais c'est votre point de vue.
Oui, il a le droit d'avoir ce point de vue, mais je trouve que c'est la manière. La plus néfaste pour aborder cette question. Ben oui, parce que si tu commences par dire,
justement,
si tu commences par dire, le PS est un ramassis de sionistes.
j'ai dit que c'était là où il y avait le plus de sionistes au mètre carré.
Tu dis exactement.
Tu n'es pas mon ventriloque, je te connais pas.
Tu assumes tout seul les propos, mais ça va avancer à quoi sur
une problématique. Le tableau, c'est celui-là.
Aujourd'hui, d'un parti socialiste. Moi, ce qui m'intéresse,
complètement gangréné par le sionisme.
C'est de. Je vais te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que. Une gauche responsable, humaniste, revienne au pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la solution, c'est une solution pour le Moyen-Orient.
C'est vraiment
une solution à deux. La question qui nous est posée à tous, c'est autour de la conférence avec Mélenchon.
On en parle. Je prononce une pause parce qu'il faut, qu'elle parte la pause. Et on se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, restez avec nous puisque c'est très intéressant, effectivement. Mélenchon qui joue un jeu très dangereux, disent les acteurs politiques du Parti Socialiste. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous le savez, c'est toujours avec Pierre-Henri, avec Gamal Amina, avec Hassan Barek et Gamal Amina. À qui je devais donner la parole, en fait, c'est à Gamal Amina. Non, c'était Pierre-Henri. C'est Pierre-Henri qui devait finir son
propos. Je disais que la question que tu posais, c'est de savoir si oui ou non Mélenchon et Rima Hassan peuvent tenir une conférence aujourd'hui en France, à l'université, sur la question israélo-palestinienne.
Et pourquoi pas ?
Et moi, je réponds oui, bien entendu, même si on a des divergences. Et moi, j'en ai beaucoup avec Mélenchon et avec Rima Hassan. Mais je ne pense pas que ça soit la bonne solution d'interdire le débat. Il faut qu'on puisse avancer et purger un certain nombre de choses sur ces questions qui sont extrêmement difficiles et qui sont, hélas, aujourd'hui, pour une part, je dis hélas, pour une part, importées dans la société française.
C'est
surtout une obstruction à l'expression politique dans le cadre d'une élection.
C'est pas dit qu'il a parlé des
sociétés. Alors, Mélenchon joue un jeu très dangereux.
Non, moi, d'abord, je suis contre, évidemment, la censure qui est intolérable.
C'est le PS qui le dit.
Oui, mais bon, le PS ne représente que lui-même, 6%, c'est c'est bon, on ne veut plus entendre parler de lui. Ensuite, le PS, effectivement, prend une initiative qui est relayée par d'autres partis, pas l'oublier, il n'y a pas que le PS qui en parle, puisque le gouvernement aussi a mis son veto, on va dire, le veto, on peut en parler. J'allais dire que Rima Hassan nous dira la semaine prochaine ce qu'elle en pense, que je vais la rencontrer. Et j'ai rencontré, il y a encore trois jours, Zineb Razoui, qui n'est pas vraiment de gauche, on s'en doute, et qui a dit, vous écoutez bien, c'est un vrai scoop que je vous donne là, parce qu'on l'a diffusé, mais en direct à la radio, qui a dit, je vais cette année voter pour la LFI. Non pas qu'elle aime la LFI. Elle dit, c'est le seul parti qui ait pris une position équilibrée sur la question palestinienne par rapport au fait qu'il faille arrêter ce bain de sang. Et sur cette base-là, je vote pour eux. Donc, j'ai envie de dire simplement, pour Rima Hassan, on lui a mis tout sur le dos, et on lui reproche d'avoir, la raison pour laquelle ils ont trouvé toujours un angle, c'est qu'elle a mis Free Palestine.
Le logo.
Avec toute la terre de Palestine. Alors d'abord, la terre de Palestine a existé, et elle n'existe plus. Donc quand toutes ces excités du bulbe sont en train de dire c'est inadmissible qu'il n'y ait pas Israël à la place de la Palestine, ils oublient qu'il n'y a plus de Palestine. Et qu'aujourd'hui, c'est Israël qui marche sur le droit international. Et donc Rima Hassan, qui a le droit de s'exprimer, et qui, si elle n'était pas française, serait une apatride parce qu'il n'y a pas de nationalité palestinienne, comme c'est 6 ou 7 millions de Palestiniens, eh bien elle a le droit de s'exprimer. Maintenant, il y a un bain de sang en Palestine, on estime qu'il y a à peu près entre 50 et 100 000 personnes qui ont été ou blessées ou tuées. D'accord ? Estimation basse, parce qu'évidemment, personne ne se vante de ses pertes. Mais il y a une chose est certaine, c'est qu'au bout de 7 mois de barbarie, de guerre totale, où on bombarde les hôpitaux, je le rappelle, où on bombarde les humanitaires, où on tue les médecins, les journalistes, où on s'autorise tout, où les types qui font ça, il faut le rappeler à chaque fois parce que ça a oublié dans les médias, on est en train de soutenir une vermine d'extrême droite. On ne parle pas de la gauche, du centre-gauche ou de la droite, de l'extrême droite racialiste qui dit que les Palestiniens, et je le répète à nouveau, sont des animaux humains. La dernière fois qu'un dirigeant a dit quelque chose comme ça, il s'appelait Adolf Hitler et parlait de Untermenschen, des sous-hommes. Donc on ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, on ne défend pas Israël, on défend l'extrême droite israélienne qui fait ce qu'elle veut. Et pire encore, elle veut nous entraîner dans une guerre généralisée en attaquant, je rappelle qu'Israël a attaqué l'Iran parce qu'on l'oublie, en bombardant l'ambassade d'Iran. C'est un acte de guerre. Donc maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'on doit laisser ce fou dangereux continuer son action et essayer de censurer des gens qui sont contre cela? Ou est-ce qu'on va prendre une posture équilibrée comme l'était Chirac, d'ailleurs à l'époque, ou De Gaulle, je ne sais, et revenir sur le terrain de la raison? On ne peut pas composer avec l'extrême droite.
Je sais, d'accord avec ce qui
c'est quand même grave.
Partiellement d'accord, parce que je pense que dans cette affaire, LFI, dès le départ, a fait une erreur fantastique. C'est de ne pas qualifier l'acte du 7 octobre de terroriste. S'il l'avait fait, aujourd'hui, sa parole serait beaucoup plus entendable. Et donc, et tout est parti situation. Moi, je l'ai dit à ce micro, je l'ai répété, je suis pour une solution à deux États. Sauf que, bien évidemment, je vois aussi la difficulté aujourd'hui. Je vois les effets de la colonisation. Je vois, effectivement, les crimes de guerre qui ont été commis par le gouvernement de Netanyahou depuis 7 mois.
Qualifier ça aussi, parce qu'il faut le dire, du terrorisme d'État. Ce sont les films d'État.
Oui, alors.
Et le terrorisme d'État, c'est Mitterrand quand il va flinguer le Rainbow Warrior, c'est quand on tire sur les hôpitaux.
Moi, je parle aujourd'hui de crimes de guerre. Je dis que le droit international, il est bon pour tout le monde. Qu'il a été bafoué le 7 octobre, qu'il est bafoué depuis 7 mois, le début de la guerre, et que bien évidemment la seule façon pour Netanyahou de se maintenir au pouvoir, c'est d'entraîner le Moyen-Orient dans une situation de guerre totale. Et donc la situation là, elle est extrêmement grave. Quand Netanyahou dit je me réserve, Israël a le droit de se défendre, oui, enfin c'est un piège grossier.
C'est lui qui attaque,
il est allé taper une annexe d'une ambassade consulat, en Syrie, consulat. Et derrière, évidemment, l'Iran, consulat, que je ne porte pas dans mon cœur, le régime des Mollahs est un régime criminel, a répondu avec mesure, parce qu'il sait aussi ce qu'il risque. Donc c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. Donc voilà. Mais encore une fois, moi je suis pour le débat. Mais je pense que dès le départ, LFI a fait une erreur stratégique majeure. Voilà.
Hassan Barek.
Disons que moi j'aimerais revenir sur la brouille entre le PS et LFI. Et sur l'importation, comme vous disiez, du conflit au Moyen-Orient en France. Bon, ce conflit s'importe partout aujourd'hui, hein, et tout le monde a a quelque chose à dire sur cette affaire, mais sur l'impact politique de cette crise aujourd'hui et sur le fait d'avoir interdit à LFI de ne pas faire la conférence, je pense que c'est une erreur stratégique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des phénomènes de mimétisme, comme disait René Girard. Donc on va forcément faire de LFI une victime. Une victime en direction de qui ? En direction d'un électorat qui est celui dans les banlieues majoritairement.
Pas que dans les banlieues. Les Français
majoritairement dans les banlieues, dans les quartiers populaires, puisque c'est cet électorat.
Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord.
Qui pose au fond problème, c'est ce qu'on reproche à Mélenchon.
Oui, mais c'est pas
Mélenchon.
Pour cet électorat qui a fait ça.
Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une bataille, en tout cas, il y a un enjeu aujourd'hui. Et dans les prochaines années, aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus des gens issus de la diversité, de gens, d'électeurs d'origine extra-européenne, hein, qui sont là, qui arrivent, et qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important. Et LFI a fait le choix stratégique de miser tout là-dessus. Et aujourd'hui, le fait d'interdire cette conférence, c'est une erreur stratégique. Alors, la brouille, elle a commencé comment ? C'est que c'est un député PS, et je crois que c'est Jérôme Gage, qui a dit, voilà, il y a un logo qui pose problème. Il y a donc un homme politique qui a réagi, c'est Xavier Bertrand des LR. D'accord ? Xavier Bertrand s'est dit, bon ben voilà, ils vont se taper dessus, puisque évidemment, il y avait LFI, le PS, tout ça, c'était de gauche. Et donc, LFI a dit, c'est à cause du PS qu'on en est arrivé là. Et maintenant, ça part dans tous les sens. Je pense que ça a été excessif.
Je voudrais qu'on fasse un tour de table.
C'est quoi ouais.
De ouais. Avant de retrouver le code 9, parce qu'on y est dans une minute à peine. Ce conflit au Proche-Orient, vous savez quoi ? Le Hamas qui fait une déclaration qui juge légitime et méritée l'attaque de l'Iran contre Israël. Mais surtout, le monde, face à cette attaque de l'Iran sur Israël, disons-le clairement qu'aujourd'hui, Israël réfléchit aussi à une riposte. Hein, même si Joe Biden a clairement exprimé le sentiment de ne pas y aller. Alors, messieurs, un tour de table avant de retrouver le quoi de neuf, justement, Pierre-Henri.
Oui,
sans s'étaler, parce qu'effectivement...
J'espère que Biden, pour y compris des raisons électorales, peu importe ses raisons, retiendra la main d'Israël, parce que derrière, c'est l'embrasement.
Et je le rappelle, Téhéran n'exclut pas, évidemment, si...
évidemment,
ils vont le faire.
Abdeslam Itach.
On voit bien aujourd'hui le narratif sioniste qui prétend dire que Israël veut se protéger, alors que Israël c'est cet État génocidaire et assassin qui bombarde ce consulat et ensuite l'Iran qui se défend sur la résolution sur l'article 51 sur son droit de réponse, son droit de se défendre frappe l'entité sioniste. Et pour rappel, vous avez d'un côté 16 morts et de l'autre côté zéro. Et bien sûr, on va vous parler de la disproportion des drones et ainsi de suite. Et vous voyez bien qu'il y a un problème dans le traitement de l'information aujourd'hui.
Gamal Abina ?
Simplement, il faut être très clair sur un point. D'abord, c'est Israël qui a attaqué. Il faut qu'on arrête le pipeau. Et ça, Israël attaque tout le temps. Ils attaquent en Syrie, violent l'espace aérien, au Liban, en Irak, partout. Donc Israël qui joue la victime quand elle attaque tout le temps, ça va. Israël qui a attaqué en 85 la Tunisie, on s'en souvient.
Oui, et qui viole l'espace.
Ça va 5 minutes la plaisanterie. Moi, je dis simplement de dire que le Hamas dit ça, il est logique. Il dit ça d'abord parce que c'est un allié pour commencer, mais surtout parce que effectivement, on n'a pas entendu les condamnations unanimes du monde entier après le bombardement de l'annexe de l'ambassade, qui est une représentation diplomatique, on le veuille ou non. On n'entend pas ce genre de condamnations. On n'entend pas les condamnations quand ils assassinaient les chercheurs et les scientifiques iraniens ou quand ils font sauter les bombes au Liban. On n'entend jamais ça. À chaque fois qu'Israël bombarde le Liban, ça n'intéresse personne. Donc il est logique qu'ils aient répliqué et maintenant c'est Israël de réfléchir.
Le coin neuf, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et après, je vous retrouverai bien sûr le coin de neuf avec, comme chaque jeudi, c'est Pascal Boniface. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Adil.
Géopolitologue, mais surtout le directeur fondateur de l'Institut Léris. Je vous lance justement avec votre billet d'humeur, comme chaque jeudi, l'Iran-Israël. Allons-y.
Oui, je viens d'entendre le débat qui se passe. Alors effectivement, rappelons les faits. Au départ, c'est Israël qui bombarde une représentation diplomatique iranienne à Damas, tuant de nombreux responsables. Et donc, c'est tout à fait illégal, contraire à toutes les conventions internationales, etc., etc. Ensuite, l'Iran décide de réagir parce que leur crédibilité est en jeu. S'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils veulent finalement admettre qu'Israël peut faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Donc ils réagissent, mais ils réagissent, je dirais, avec prudence. Ils avertissent les États-Unis qu'ils vont réagir. Donc il s'agit de mettre un système de défense avec des pays arabes, des pays européens, et en fait les 300 missiles, drones, balistiques, etc. qui partent, en fait aucun n'atteint sa cible, tous sont abattus. Et l'Iran dit, ben voilà, c'est pour solde de tout compte, on arrête maintenant, et il faut pas réagir. Mais en fait, cette attaque, à la fois, a permis à l'Iran de rétablir sa crédibilité, mais en même temps a servi Israël. Parce que, on a vu, ce qu'on a vu, c'est que s'est mis en place une coalition, non seulement avec les États européens, mais aussi les pays arabes, qui étaient finalement très inquiets de l'Iran. Et donc, on a oublié ce qui se passe à Gaza, il y a une coalition qui s'est formée autour d'Israël pour défendre Israël avec les pays européens, avec la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Les pays européens ont décidé de sanctions contre l'Iran alors qu'ils n'ont pas été attaqués, que c'est un pays ami, mais que, et ils n'avaient jamais même pas condamné l'attaque israélienne sur le consulat à Damas. Et donc, en fait, pour Netanyahou, on lui a demandé de ne pas réagir trop fortement de part d'un embrasement, ce qu'il a accepté de faire. Et finalement, pour l'instant, il sort gagnant, parce qu'on ne parle plus de Gaza. Des pays arabes soutiennent Israël indirectement, les pays européens font des sanctions contre l'Iran et n'ont jamais pris de sanctions contre Israël pour ce qui se passe à Gaza, alors qu'on pourrait un peu se poser la question quand même. Et donc Netanyahu apparaît comme un modéré qui a calculé de ne pas réagir trop violemment par rapport à l'Iran, ce qui peut paraître pour le moins paradoxal, c'est un euphémisme évidemment, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc, voilà. Et là, pour moi, la grande erreur de l'Iran, c'est de continuer à faire peur aux Saoudiens, aux Émiratis, au lieu d'essayer de se rapprocher d'eux. En fait, les Houthis attaquent tous les navires qui passent en mer Rouge. Alors, bien sûr, c'est des navires qui sont liés à Israël, mais les Saoudiens et les Émiratis pensent qu'eux-mêmes sont visés. Et donc, la peur que suscite l'Iran pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis l'emporte et fait que ces pays, finalement, préfèrent soutenir Israël plutôt que de s'attaquer à Israël et acceptent de participer de fait, à une coalition anti-iranienne.
Merci mon cher Pascal Boniface, à la semaine prochaine sans faute.
Avec plaisir.
Merci à vous. Géopolitologue, je le rappelle, est le directeur fondateur de l'Institut Leris. Qu'est-ce que vous voulez rajouter mon cher?
Ce n'est pas les pays, ce sont les dictateurs. Ce sont juste eux, ils ne reprennent pas leur peuple.
Hassan, Damo,
assez court, je dirais que si on observe un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord. Que celui qui pose aujourd'hui problème, c'est M. Netanyahou.
Merci à vous, merci Pierre-Henri, merci Abdeslam Itach, merci à Zenbaik, merci à Gamal Amina, merci à Solal à la réalisation, c'est Bilal Edman et Time Sport, Vanessa ce soir avec Confidence, demain Kim, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la redille. Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Et non, ce n'est pas Bilal Nenman, il ne saurait tarder. Vous êtes bien sur Beurre FM en tout cas. L'endroit où il faut être à partir de 20h, à partir de 19h, 23h, n'importe quelle heure de la journée. Franchement, on a des programmes incroyables. Vous pouvez retrouver tout ça sur Beurre FM dans tous les cas, le site internet. Mais là, vous débarquez bien sur Time Sport, chers amis. Time Sport, 1h, votre quotidienne sport. Donc voilà, on va parler de nombreux sujets aujourd'hui, notamment Madrid. Madrid toujours là, Madrid toujours en finale, c'est la question qu'on va se poser, chers amis. 0153 48 3000, on vous laisse réagir. C'est vrai que cette émission vous appartient aussi. Je vais présenter dans un instant le plateau qui va s'accaparer de ces sujets. En deuxième sujet, forcément, on aura donc City, donc comme vous l'a dit, à côté de son match, ça c'était le premier sujet. Deuxième sujet, Arsenal sans se battre, on l'aura vu, malheureusement grosse déception pour les Gunners hier soir. Peu d'envie sur le terrain, mais un Bayern aussi solide, pour en parler de ce Bayern forcément. Et le troisième sujet, ça va faire plaisir à nos amis du 13, Marseille, qui va peut-être représenter un peu plus encore cette France-là qu'on adore à chaque fois, en plus du Paris Saint-Germain et de Lille, si je ne me trompe pas, dans ces coupes européennes. Chers amis, en tout cas, vous êtes bel et bien sur Time Sport, Beurre FM, et on va présenter tout de suite le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir.
Time Sport, il est pour parler.
Et oui, chers amis, sur le plateau, on a plein d'invités, j'allais dire. On a un invité qu'on présentera tout à l'heure, chers amis. On va attendre Bilal forcément pour le présenter comme il se doit. En tout cas, Skander Bayer qui est bien avec nous. On a forcément Jason qui est là, Jason qui est peu souvent là, mais dès qu'il arrive, forcément, c'est pour parler avec son expertise. Ça va être troqué, Jason?
Ça va très très bien. Heureux de vous retrouver. Je n'étais pas venu depuis un petit moment, mais comme tu l'as dit, quand je viens, j'essaie de tout donner, faire plaisir à tout le monde et d'analyser avec le plus d'objectivité sérénité possible. En tout cas, ravi d'être là.
Écoutez, j'espère que le PSG sera aussi beau dans les prochains matchs que ce dégradé, ce contour à chaque fois. Il vient soigner. Hein, c'est,
merci.
Les autres, vous êtes magnifiques aussi, franchement. Mais c'est vrai qu'on tient à souligner ces cheveux brossés à la perfection.
Merci beaucoup.
Je vois comment tu vas ce soir, mon ami.
Ça va, les gars, on est là. Ça fait très plaisir. Là, sans Bilou qui va arriver, je pense. Mais tu le remplaces à main levée, Solal. Hein, c'est là, aux manettes et au mic. Tu réponds
un vrai
présent.
Adjoint.
Et puis, il y a toute l'équipe. Là, je retrouve Jason. Quel plaisir. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Il y a Adnan toujours, la Mif, il y a Karim, il y a un bel invité aussi que tu vas présenter, je crois que j'oublie personne.
Et oui, et voilà. Qui adore ces soirées forcément là, d'après Champions League,
ouais,
on va avoir son expertise
on
aussi tout à l'heure.
Parlé hier
c'est vrai que le connaissant, il y a beaucoup de points qu'on va aborder d'une manière sous des aspects qu'on n'a pas forcément vu. Et Adnan qui est aussi là ce soir, comment vas-tu Adnan?
Bonsoir à tous, bah, ça va. J'ai passé une soirée kiff hier, vraiment. Et j'aimerais juste faire une petite dédicace, je le fais pas souvent, mais voilà, moi, de ma profession, tous les livreurs, ceux qui travaillent sur les quais, les tireurs de palettes, voilà, tout ce qui est fait dans le transport et la logistique, effectivement, je sais qu'ils nous écoutent beaucoup, donc vraiment une grosse dédicace à eux et force et courage.
Et oui, si vous êtes dans votre voiture ou bien dans le taxi ou dans un camion, vous écoutez Beurre FM depuis votre autoradio, chers amis, vous êtes au bon endroit, 20h-21h, Time Sport, une heure de sport, on va parler de beaucoup de sujets et aussi forcément ce plateau ne serait pas aussi magnifique s'il n'y avait pas Karim. Comment vas-tu, Karim, ce soir?
Bonsoir, Solal. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir, la communauté.
T'as bien vécu ce match hier soir?
Ouais, un peu déçu, mais bon, on va en revenir sur la soirée.
Tout à fait. Écoute, je vais commencer forcément par ce premier sujet qui nous a été donné forcément par le Mediatime Sport, qu'on vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que le compte de Beurre FM que vous retrouvez sur vos téléphones. Adnan, je commence par toi, forcément, parce que tu as dû regarder ce match hier avec beaucoup d'attention. C'est vrai que c'était l'affiche, un choc titanesque entre le Real Madrid et forcément Manchester City. Alors, on avait beaucoup d'attentes de ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé au premier abord?
Non, mais moi, encore une fois, justement, c'est ce type d'affiche comme chaque année maintenant, depuis 2-3 ans. Real Manchester, effectivement, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir ce type de match. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe justement qui est expert dans la possession de balle, qui va essayer justement de trouver les solutions. Et c'est vrai que Manchester, sur ça, il n'y a rien à dire, elle maîtrise vraiment parfaitement son sujet. Face à une équipe du Real qui à l'art de défendre et comme on sait dans le football, pour gagner un match, faut mettre un but de plus que l'autre. Et aujourd'hui, justement, ce Real-là, avec les atouts qu'elle a mis en avant, l'abnégation, le courage, la finesse technique et tous ces ingrédients-là ont fait que justement elle a réussi à passer. Et voilà, elle a la Ligue des Champions, c'est son ADN. Donc c'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement. On voit quand elle rentre sur le terrain, quand ils arrivent le Real, ils ont vraiment le poids de l'institution. Ils maîtrisent
le savoir du match, c'est ça plutôt.
Exactement.
Hein, tout simplement.
Et ils arrivent, ils savent s'ouvrir, mais surtout ils paniquent pas. Ils paniquent pas, ils sont là, ils sont zen du début à la fin. Et si vous regardez bien jusqu'à la séance de penalty, dès qu'elle arrive, on voit les sourires, on voit qu'ils sont zen, contrairement à Manchester qui eux, après 80 tirs, après je sais pas combien d'actions qu'ils ont essayé de marquer, malheureusement elle panique un petit peu. Donc non, ce Real là maîtrise cette compétition, elle a ça dans le sang et encore une fois voilà, c'est un candidat solide justement pour aller au bout.
Ouais, candidat solide justement, c'était le débat du jour, hein, Jason, c'est le Real toujours là, l'arrivée toujours critiqué et aussi toujours, oui merci du clin d'œil Jouba, à l'arrivée on va voir si ton départ sera aussi acté pour le mercato estival justement. Voilà, le punchline à la Jouba. Justement, Jason, le Real Madrid décrié, mais sereinement là. Ancelotti
de
aussi.
De toute façon, à la fin.
Dommage que le Paris Saint-Germain n'a pas gardé Ancelotti à l'époque.
Ouais,
hein.
Mais ça y est,
faut passer à autre chose.
On voit qu'avec Enrique, ça y est, on a complètement digéré hein, le passage d'Ancelotti et même des autres. Mais pour en revenir au Real Madrid, bah justement, Ancelotti, hier, il a été au plus efficace. On est désolé pour le spectacle, mais voilà. Lui, il a des comptes à rendre. L'année dernière, il a pris une gifle à l'Etihad Stadium. Il avait pris 4-0, il avait peut-être pas très très bien préparé son match. Un grand coach fait rarement deux fois les mêmes erreurs et il l'a prouvé trouvé hier soir. Alors, certes, au niveau du spectacle, encore une fois, c'était pas terrible, mais lui, encore une fois, il a des comptes à rendre dans le Real Madrid. L'objectif, c'est d'aller dans le dernier carré. Ouais. Il a réussi. Et il faut aussi savoir, et j'ai été agréablement surpris par Thierry Henry, qui est généralement un anti-Real, qui a été très objectif dans son analyse en disant que savoir bien défendre, ça fait partie du football.
Il faut arrêter de
toujours dévaloriser l'équipe qui défend. Mmh. Alors oui, c'est vrai, quand c'est l'Atlético Madrid, on le pointe du doigt parce qu'ils font que ça. Ils savent faire que ça. Donc c'est vrai qu'à une époque, on était un peu désolé parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient capables de faire autre chose. Hier, c'était occasionnel. Le Real Madrid a joué comme ça occasionnellement. On sait que c'était peut-être le seul moyen de sortir City. Et au final, on retient que le vainqueur. Le Real Madrid est en quart de finale. City a eu la possession. C'est très bien. Merci. Éliminé.
Éliminé. Karim. On va retrouver Karim.
Moi, j'ai été très déçu de la soirée d'hier sur ce match-là en particulier. Bah, parce qu'en fait, moi, le Real Madrid, c'est pas la meilleure équipe qui est passée en fait. Sur l'ensemble des deux matchs, il y a 4 buts à.
Attention,
partout,
le niveau de jeu. Et c'est pas au Barcelone PSG quand même. C'était assez incroyable quand même.
Manchester City. Mais quand même, faut qu'on exige la chose. Oui, mais Manchester City a produit le plus de jeux.
A marqué autant de buts
que le Real Madrid. Mais franchement, honnêtement. Oui, ça va très bien, mon Bilal.
Non, mais tu es sévère.
Ah, je suis sévère, pardon, excuse-moi, mon Bilal. J'avais pas entendu. Il m'a dit ça va. Non, oui, sévère. Mais sévère, pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid aussi. Mais moi, en fait, j'en ai marre de les voir. Ça fait 11 demi-finales consécutives pour le Real Madrid, les gars. 11 fois d'affilée, ils sont dans le dernier carré.
Qui maîtrise l'événement, tout en défendant, certes. Mais encore une fois, voilà, il faut trouver la solution. Manchester l'a pas trouvé.
Est-ce que c'est la Ligue des Champions? Est-ce que c'est la Ligue des Champions ou c'est la Ligue des Madrid?
Non, moi, non, mais non.
Ça, en fait, faut qu'on m'explique comment
ils vont
faire exprès de perdre. Quelle est leur recette?
C'est la maîtrise de
l'événement.
J'étais
perdu hier.
On a regardé le match ensemble.
C'est un Italien qui est venu jouer Catenaccio, clairement, défensif à mort, avec une projection, avec des buts, le but qu'il fallait très vite en entame de jeu. Il avait une revanche à prendre pour cette équipe. Parce que tu le disais, deux demi-finales de suite, et puis là, la demi-finale.
12
sur les 14 dernières éditions.
C'est incroyable. Deux demi-finales de suite, et puis là, la demi-finale dernière, elle s'est jouée contre ce même Manchester City et il l'avait perdu, donc il y avait une revanche. Je parlais de ces deux-là, ces deux dernières spécifiquement, celle de cette année et celle de l'année dernière. Donc en tout cas, il y avait un aspect de revanche aussi. Ça a été très dur, ça a été poussé jusqu'au tir au but. Nous, on l'a regardé avec Bilal, on a pu observer un petit peu tout ce qui s'est joué. Ça a été chaud. Il y avait beaucoup plus de tentatives de la part de City qui avait vraiment la dalle, et puis il y avait un Ancelotti qui avait un plan de jeu bien défini, marqué, et puis derrière défendre, les tirer jusqu'au tir au but, et au tir au but, et ben ils ont eu la tête froide parce que je pense que Ancelotti, lui, pas comme Deschamps qui est médiocre au niveau du coaching, qui est médiocre au niveau des tirs au but, qui dit que c'est un jeu de hasard. Ancelotti, lui, a peut-être bien bossé ce truc là, et ben les mecs ils y sont allés avec son froid, boum, ça fait but à chaque fois, quoi.
Avec un deuxième gardien, c'est pas tous les clubs au monde. C'est là où on voit que le Real Madrid, c'est un club spécial qui est capable de faire une demi-finale de Champions League avec le gardien numéro 2 et qui était numéro 3 aussi en début de saison. Il était numéro 3 à la base. Ils avaient acheté Kepa en urgence. Finalement, ça l'a pas fait. Ils l'ont mis sur le banc parce que Lounine avait fait ses preuves. Et hier, c'est aussi sa victoire à lui.
Tu fais bien d'en parler.
Il
était sur le départ, Lounine. Il est en train de prouver.
Exactement.
Mais moi, j'aimerais juste rappeler deux choses.
Rappelle.
Deux choses, déjà, c'est faut rappeler la physionomie du match et du contexte du match. Il marque à la 12e minute. Ils pensaient qu'ils allaient faire quoi? Qu'ils allaient continuer à faire le jeu et pas reculer? Ben voilà, ils ont marqué à la 12e minute, donc forcément ça change la physionomie du match. Et effectivement, ils ont reculé. Après, encore une fois, moi, il y a un joueur sur lequel je veux parler parce que c'est vraiment l'image du match que le Real a fait. C'est Rudiger. Rudiger, il a fait un match vraiment extraordinaire.
Qui incarne cette souffrance du Real Madrid, qui est capable de souffrir et de tout donner.
C'est le shérif, quoi.
Mourir sur le terrain.
C'est le shérif.
C'est voilà. C'est le digne remplaçant de Sergio Ramos dans l'état d'esprit.
Incroyable.
Et c'est aussi la capacité incroyable de ce club. C'est toujours de perdre, entre guillemets, des joueurs et très bien les remplacer derrière par des joueurs en plus qui, encore une fois,
vous allez me pardonner, mais moi, j'ai J'ai oublié le nom du gardien de but, les gars.
André Lunin.
Hein? Lunin. Parce qu'il sort du centre de formation, etc. Et ben, ce gars-là, il a été incroyable. Il a été impérial. On pensait qu'il fallait un grand gardien avec un gros nom pour gagner une Ligue des Champions, pour aller loin en Ligue des Champions. Ce gars, il sort du centre de formation. Il était peut-être à la Castilla ou voilà. Et le gars, il est là, face à Manchester City, détenteur du titre, pardon. Et le gars, il sort des parades quand il faut. Il est là, impérial, au tir au but. C'est vraiment, il a un mental de fou.
Et
moi, ce gars-là,
bas,
c'est impressionnant. C'est impressionnant.
Toute l'équipe, justement, qu'il faut souligner sur l'état d'esprit qu'il y a eu hier.
Le
Casablanca, Juba, justement, en espagnol, comme tu aimes si bien la langue.
C'est clair.
Oui, carrément. Vas-y, carrément.
Non, moi, ce que je voulais dire, c'est quand même. Les joueurs de City hier, vous les avez trouvés un peu cuits, un peu rincés physiquement.
Moi, je trouvais que le pressing, il était jusqu'en prolongation. J'étais même étonné. Je vois un mec comme Walker qui a pas joué depuis 3 semaines.
Attention, tu parles de l'équipe qui est première ligue.
C'est ça. Et c'est ça que j'allais dire.
Après, il y a la course au titre. Le Real aussi. J'ai envie de dire. Hier, je vois Bellingham qui est plus. Il continue le match. Vinicius qui court partout. Qui sort aussi. Je pense que c'était dur des deux côtés. Et c'est plus dur de courir quand t'as pas le ballon que quand tu l'as quand même.
N'oubliez pas, il y a un truc qu'il faut souligner. On a un mec comme Pintus, justement, qui est préparateur physique du Real Madrid, et qui a l'habitude justement de préparer ses équipes pour qu'elles soient justement au top. Et là, on l'a vu hier, même dans les dans la prolongation.
Pour moi, c'est dans la résistance où ils ont été impressionnants, le Real, parce qu'en termes de d'épuisement, je trouve qu'ils ont été, ils paraissaient plus épuisés que les joueurs de City, mais ils ont résisté. C'est une chose que City n'a pas l'habitude. City s'est poussé dans ce retranchement. Mais quand t'as la possession, tu balades l'équipe de gauche à droite.
Et d'ailleurs, City pour moi, on vient de le dire face à
City. D'ailleurs, City devient stéréotypé pour moi. Le jeu de City, ça y est, on commence à comprendre. Ça va à gauche, on attend, on cherche au deuxième poteau à Londres. Ça marche pas, on va de l'autre côté, Bernardo qui. À un moment donné aussi, peut-être que il y a des joueurs aussi à City, bah, il va falloir trouver d'autres solutions. Un joueur comme Haaland, en ce moment, ça va pas. Il faut aussi venir à son cas. Contre le Real, ça passe pas.
Pourquoi Guardiola,
est-ce qu'il veut vraiment servir Haaland? Le mettre dans une bonne position pour aussi se poser les bonnes questions, parce que c'est bien beau de dire que le Real il défend, mais est-ce qu'on a mis dans les bonnes conditions le serial buteur de cette équipe? Est-ce que c'est normal qu'en 6 matchs contre le Real,
on fait une courte pause, on va revenir Anan avec tes propos, il n'y a pas de problème, sans oublier aussi notre invité de ce soir, on le rappelle, Skander Bayard, le fondateur phare de Bayard Sport Agency, qui sera avec nous. On va le laisser, on va lui donner du temps pour revenir justement sur ce match-là avec la qualification en demi-finale dans le dernier carré de cette édition 2023-2024 de la Champions League du Real Madrid face au Sky Blue de Pep Guardiola. Allez, à de suite, chers auditeurs.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et on est ensemble soir de match aussi. C'est la Ligue Europa, la conférence Ligue aussi, avec justement les Lillois 2-0 face aux Anglais d'Aston Villa. Ça fait plaisir, ça, Juba. Pour m'accompagner jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa, on est avec Karim aussi, Adnan, Jason. Oui. Et ben voilà, Jason qu'on voit pas beaucoup et justement qui est demandé par la gente féminine et aussi masculine sur l'antenne de Beurre FM. On tient à le rappeler. Ben, les deux, mais moi,
c'est incroyable.
Mais moi, je suis juste, c'est dédicace, hein. Je suis là, je suis en relieur, hein. Comme aux Jeux Olympiques, hein. C'est tout, hein. Je fais passer les messages. Voilà, avant d'accueillir notre invité, on va s'attarder encore une fois sur les Citizens et le Real Madrid.
Time Sport. Time Sport. La parole des sociaux.
0153483000. Voilà, tout simplement, avec Solal à la réalisation. Il se fera un plaisir de balancer l'auditeur pour intervenir avec nous. Voilà, un petit clin d'œil, une petite réaction. Tranquillement, vous êtes là, accompagné de toute l'équipe de Time Sport, tout comme Adnan. Adnan, on revient avec toi.
Oui, tout à fait.
On avait sur la patate.
Avec Guardiola.
Non.
Guardiola,
Guardiola notamment. Mais on était sur le débat, justement, de Haaland. Et au vu du match qu'il a fait hier, c'est vrai qu'il s'est fait manger de manière physique, voire même psychologique, par le duo Rudiger et Nacho. Et pour moi, l'avenir justement d'Haaland, justement au sein du Manchester, Je sais pas comment ça va se terminer.
C'est quoi?
C'est la vérité. L'année prochaine, je sais pas comment du tout Guardiola va jouer justement avec Haaland.
C'est la même stratégie quand t'affrontes Haaland ou Kylian Mbappé, c'est tu vas chercher à les bloquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés en infériorité numérique très vite. Le Barça, c'est pour ça qu'ils ont pas pu bloquer Mbappé comme au match aller. Quand t'as ces mecs-là en face de toi,
pivot, comme Rudiger qui est face à lui.
Mais c'est pas la question. Quand tu sais que t'as Haaland ou Mbappé face à toi, tous les coachs du monde vont bloquer Haaland et Mbappé. Donc c'est le jeu.
Haaland, je vais te dire une question.
Dans ce truc là.
Mbappé, combien de fois il a été bloqué justement en Ligue des Champions ou il a été vraiment muet?
Le match aller face au Barça, c'était une catastrophe.
C'est
Mbappé.
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre le Real, Rudiger, il le met en porte-clés. Il lui tient la poche comme dans Prison Break.
Il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, on peut pas lui tomber dessus.
Justement, l'année dernière, dans les derniers matchs de Champions League, c'est-à-dire après le but qu'il a mis contre Bayern en 8e,
on l'a plus trop vu.
Mais c'est normal,
là où c'est son point, l'animation elle est là.
C'est pas une animation
pour lui.
Oui, c'est là où
je pense qu'il va en venir. Et c'est là où son avenir, on pourra commencer à se poser certaines questions si Pep Guardiola, la saison prochaine, continue de jouer entre guillemets en ignorant son numéro 9.
L'axe d'amélioration.
Entre guillemets. Ouais. Parce que. Il est de moins en moins touché dans le jeu, et ça c'est problématique. Alors oui, il faut qu'il apprenne aussi à varier son jeu, c'est un joueur qui a 23 ans, il a encore des axes d'amélioration, mais il faut aussi pour que le coach fasse en sorte de le mettre bien. Et on sait que Guardiola est le numéro 9, c'est pas trop ça.
Mais là on parle même pas que du match d'hier.
En termes de statistiques, il y a rien à dire. 30 buts le mec. Il fait une saison compliquée, 30 buts. Mais regardez contre qui il est.
Juste moi, Bilal, pour terminer sur ce sujet,
Manchester City
a un chantier avec Pep Guardiola sur l'axe Haaland et faire une équipe autour d'Haaland. Parce que perdre Haaland, faire d'Haaland un joueur lambda, c'est une catastrophe.
C'est pas un joueur lambda, mais c'est justement faire deux.
Si ça continue comme ça, Haaland il va perdre sa notoriété. Parce qu'ils ont misé beaucoup sur Haaland. Et l'année prochaine, le mercato va être de folie, et vous verrez que le mercato de City va être axé.
On est en mercato. Si tu dis ça, si tu connais pas Pep Guardiola, il a jamais joué avec un
club.
On a que Skander Bayard, on le rappelle, le fondateur de Bayard Sport Agency. Bonsoir Skander, comment ça va Skander?
Salut Skander. Bonsoir la Dream Team, donc bonsoir Bilal, bonsoir Solal, bonsoir Jouba, bonsoir Karim et bonsoir Adnan.
Bonsoir,
et bien sûr, bonsoir Jason.
C'est super. Il prend le temps.
C'est le seul invité qui nous connaît bien.
Ça fait plaisir. Il fallait pas le connaître à lui.
Vous êtes pas la Dream Team pour rien.
C'est super sympa. Justement, avant de parler de Bayer Sport Agency, est-ce qu'on peut avoir un mot, Skander, concernant le match d'hier soir? Le match phare, une finale avant l'heure. C'était City face au Real.
Comme disait tout à l'heure Karim, effectivement, le Real était avec le sourire au moment des pénalties. Donc c'était quand même un moment clé. Donc certes, il y avait la pression du public pour Manchester, mais petit à petit, et ils ont commencé à perdre confiance. D'où d'ailleurs, même quand Bernardo tire le penalty, il tente un geste technique, mais on voit dans son regard au moment du tir, il était pas si déterminé. Il était, pour moi, je pense qu'il était hésitant. Et c'est pour ça que justement le gardien lui n'a pas bougé, il est resté sur sa ligne et il a reçu comme une passe.
C'est vrai.
Donc
on avait compris.
Et ça a déstabilisé, je pense un peu ça les a déstabilisés par rapport à la confiance. Et effectivement après c'est le Real qui s'est senti dominant, surtout le gardien.
C'est incroyable.
Qui les a bien mis
La défense du Real
Et la défense du Real était vraiment solidaire. Effectivement, c'est dans les grands matchs comme ça qu'on voit justement la solidité d'une institution. Et Manchester, même s'ils étaient tenants du titre,
c'est vrai.
Mais pour moi, ils n'ont pas la même expérience que le Real.
Exactement. Le Real tout à l'heure,
ils ont un abonnement pour les demi-finales.
Donc, c'est vrai.
Voilà.
On les retrouve
au dernier carré.
Mais on on l'a beaucoup vu très rapidement. On l'a beaucoup vu justement au moment des séances de penalty où on a vu un Pep Guardiola qui s'excitait, qui allait voir ses joueurs un par un, leur donner des consignes, etc. Ou le côté Real, et ben eux ils étaient allongés, ils faisaient masser.
Bah, à l'image du coach.
Exactement.
Professionnel. Et voilà, il s'acharne sur ses chewing-gums. Ancelotti, c'est sa technique. Voilà, quand il est pas bien, c'est les chewing-gums qui prennent.
Des cigarettes après, mais on va pas le dire.
Berhalter aussi.
C'était assez flagrant hier en tout cas.
Ouais, assez flagrant, justement. Allez, le second gros dossier de cette émission.
Time Sport. The Special One. The Special One.
Jouba, tu sais, tu n'es pas le seul dans ce studio. Hein. Il y a aussi Karel, il y a aussi Jason. Voilà, hein. Je dois faire tourner un peu la balle, hein, tu vois, en tant que un peu le sélectionneur, un peu Didier Deschamps ou Carlo Ancelotti.
C'est un taureau, je dois attraper le ballon. Voilà.
On est comme à Londres, on n'est pas servi.
C'est ça, on n'est pas servi. On le sert bien, Jouba. Avant l'émission, après l'émission. Ah bah oui.
Là, c'est que d'amour que la famille.
Et le coup de cher, Jouba. Je peux vous le certifier, ça. Justement, on revient avant de parler des Gunners d'Arsenal et d'Arteta. On va revenir à Bayer Sport Agency, justement. On peut apercevoir sur les réseaux sociaux, Skander, qu'il y a une pléthude de stars qui vous entourent, hein, vraiment, de beaux joueurs, hein, de belles joueuses aussi, vraiment. Voilà quoi, c'est assez incroyable avec qui vous baignez, hein, si je peux me permettre, hein, de vous lancer bien comme sûr. Ça, mais c'est assez incroyable, mais c'est le travail qui paye, quoi. Alors, j'ai l'impression.
Bien sûr, je vais me présenter très rapidement tout d'abord.
Donc, avant pour les auditeurs.
De créer mon agence, justement, je travaillais pour un groupe hôtelier.
Ouais.
Et donc j'ai eu la chance de développer le segment sport qui était le plus productif durant le Covid. Et moi je suis resté connecté justement. Donc j'ai pas hésité à envoyer des messages aux joueuses et aux joueurs et au staff via Instagram par exemple ou FB pour leur souhaiter un bon courage, une bonne séance d'entraînement. Ce qui fait on a gardé contact. Et après j'ai pu avoir la chance d'avoir un très très grand joueur brésilien qui faisait rêver beaucoup de spectateurs parisiens, dont Neymar, que j'ai eu la chance d'avoir pour plusieurs shootings.
Mais c'est super.
Et c'était vraiment un très très grand monsieur.
Ouais.
Bon, malheureusement, il est sorti, comme on dit, par la petite porte.
Ouais.
Et c'était un très très grand joueur, un super homme. Et grâce à Ney, j'ai pu faire des connaissances comme Kylian, j'ai pu le rencontrer.
Bien sûr.
J'ai pu rencontrer Paredes, j'ai pu rencontrer Di Maria, effectivement.
Ouais, beaucoup de monde.
Pas mal de joueuses du PSG.
Aussi.
Et qui faisaient des mises au vert au sein d'un de mes hôtels.
Ouais.
Et après, justement, j'ai souhaité me lancer. Et j'ai un message après à faire passer aux jeunes, qui est très simple, hein, c'est quand on veut, on peut, rien n'est impossible, mais et on peut réaliser nos rêves.
On peut réaliser nos rêves.
Justement, tout est possible. Et j'ai la chance d'être sur vos antennes ce soir.
Il faut en profiter, donc, allez-y.
Et exactement. Et voilà, et pour revenir sur les sportifs, je suis resté très proche d'eux. Et ce qui m'ont permis de me développer, de me rapprocher des team managers et maintenant de pouvoir m'occuper de certaines mises au vert ou des demandes, mais on rentrera plus dans le détail si vous le souhaitez parce que j'imagine que là vos auditeurs ils ont quand même envie d'avoir le retour sur les matchs
aussi justement peut-être Adnan. Il nous faut des personnes comme Skander aujourd'hui.
Non mais bien sûr, mais c'est surtout le message qui est en train de passer, c'est que déjà les footballeurs ne sont pas si fermés que ça. On se dit qu'ils ont la grosse tête, qu'ils sont fermés, qu'ils sont qu'entre eux et qu'ils font confiance à personne, seulement à leur entourage. Et en fait, il s'avère qu'ils savent renvoyer la balle, notamment. Ils savent être reconnaissants. Et il y a aussi ce petit bouche à oreille qui se fait entre autres. Bon, il y a des références qui sont assez plaisantes à avoir, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir à entendre le fait qu'ils donnent des coups de pouce justement à des personnes qui ne connaissent pas forcément au départ et derrière qui peuvent justement leur permettre de se développer. Et je trouve ça assez plaisant à entendre parce que on a toujours dit qu'ils avaient la grosse tête, qu'ils étaient fermés, qu'ils étaient un petit peu imbus de leur personne, et il s'avère que non, en fait.
Ça dépend qui, je pense.
Tout à fait, Adnan, vous avez tout à fait raison. Mmh. Et pour information, donc le garde du corps de Ney était d'origine tunisienne comme moi, donc Ahmed. Mmh. Qui était également un très grand monsieur dans tous les sens du terme.
Il y a même le garde du corps de Messi, je crois qu'il s'appelle Youssef, je sais pas quoi, mais voilà.
C'est possible. Ouais. Mais malheureusement, Messi, pour moi, était malheureusement inaccessible par rapport à sa madame, certainement.
Ouais.
Mais j'aurais aimé également le rencontrer. Mais j'ai fait des très très belles rencontres, grâce à Ney en particulier.
J'imagine que c'est une belle carte de visite quand même.
C'est une très belle référence pour moi et c'est celui qui m'a permis de bien me lancer et bah, d'être assez proche de pas mal de sportifs et de différentes disciplines également.
Ouais, et quel est leur intérêt pour eux de passer justement par toi? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Quel est le gagnant-gagnant de l'histoire en fait?
Alors, moi j'ai la différence et justement c'est le but de mon agence, c'est mon objectif est de me développer dans plusieurs pays, dans d'autres continents aussi.
Ben voilà,
c'est que moi j'ai un accueil, c'est très gentil Bilal, merci beaucoup, c'est que j'ai un accueil très personnalisé et j'ai mon ADN. Donc quand je reçois les équipes, c'est identifié de A à Z, c'est-à-dire des stars, des personnes qui sont dans l'ombre, comme les kinés, qui ne sont pas forcément reconnus quand ils vont dans les hôtels. On leur dit juste bonjour monsieur, voire juste bonjour, et voire on ne dit pas du tout bonjour, mais on reste focus sur les stars ou le coach. Ouais. Alors moi, pour moi, du jardinier au coach ou à la star, ils sont tous au même niveau. Donc ils ont tous deux bras, deux pieds. Après certes, il y a des statuts dont des équipes, je vais l'apprendre à personne.
Bien sûr.
Mais moi, pour moi, l'accueil est personnalisé au moment de la descente du bus, quand je les accueille à l'hôtel par rapport à mon agence, pour les équipes que je prends en charge. Et ce qu'ils aiment bien, les joueurs, c'est quand je les appelle tous par leur prénom, staff inclus, et les joueurs écoute, parce qu'ils se parlent entre eux.
Et ça, c'est magnifique.
Mais à part le président ou le coach, où je les nomme par leur statut. Mais sinon, voilà. Ouais. Et pour revenir à votre question, Adnan, pourquoi moi? C'est parce que justement, j'essaye d'anticiper, malgré un cahier des charges que je reçois. Par exemple, j'essaye de faire des surprises le plus possible. Par exemple, quand il y a des dates d'anniversaire et que le staff ne me l'a pas informé.
Ouais.
Donc, j'hésite pas à leur dire, fais attention, par exemple, là, dans votre équipe. Par exemple, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jason. Vous me l'avez pas signalé. Et là il me dit ah Oscar, putain heureusement que t'es là. Et pour justement réserver une petite surprise ou des petites choses comme ça.
C'est ce que j'ai envie de dire souvent, c'est que en fait recevoir des personnes à son hôtel, tout le monde sait le faire.
Exactement.
Là où on va se différencier, effectivement, c'est dans ces petites attentions, c'est dans ces petites.
Il va dans les niches.
Exactement. Et je pense que c'est là que vous arrivez justement à tirer votre épingle du jeu. C'est d'attirer justement cette petite attention, cette petite différence qui va faire que pourquoi elle est là, pourquoi elle est à A, pourquoi elle est B, bon on va aller à B parce que il nous tutoie, il connaît justement nos spécificités, etc. etc. Et voilà, c'est souvent ça en fait qui fait la différence.
Et pour répondre à une petite anecdote très rapide, je vais pas monopoliser la parole.
Allez-y, Skander,
pour répondre à une petite question, c'est que j'avais reçu l'équipe de Nanterre dans un de mes hôtels pour une présentation des joueurs. Il y avait un joueur qui s'appelait Dallas Moore, qui était un Américain. Sa femme avait accouché la veille. Il a eu une petite fille qui s'appelait Peyton. Le club n'était pas encore au courant. Moi, j'avais suivi sa femme. Enfin, je suivais le joueur ainsi que sa femme, bien sûr, dans les réseaux, sans rentrer trop dans la vie privée, parce que je suis pas du FBI, loin de là, ni du CIA. Et par contre, je me suis permis, lors de mon discours, après le discours du président et du coach, de féliciter Dallas Moore, qui est un ancien basketteur. Et enfin, qui est toujours basketteur actuellement. Et quand j'ai dit bienvenue à Peyton, donc tout ça en parlant en anglais, parce que c'est un Américain, ça a surpris et Pascal Donadieu qui était coach, Frédéric Donadieu, et le papa Jean Donadieu qui était président à l'époque. Mon petit côté où j'essaye d'avoir un maximum d'informations et de me démarquer des autres agences, parce que comme disait Adnan, les agences de sport, il y en a partout.
Il y en a partout.
Mais des personnes qui
assez talentueuses comme vous,
des informations.
Il y en a pas beaucoup.
Skander, on a un peu cette fibre à l'américaine. Excusez-moi. On a un peu cette fibre à l'américaine. On va faire réagir Adnan, sans oublier aussi Karim et Jouba. Je tiens à rappeler aussi, on a pas mal d'auditeurs, d'auditrices. On a Malik qui a réagi en live là, qui nous dit Bilal, profil intéressant de l'invité de ce soir. C'est bien de mettre en avant ce type de métier moins connu du grand public pour les jeunes aussi qui nous écoutent.
Exactement.
Voilà. On a aussi on a Zarine et Anna en visite du côté de Belanissa qui approuve et qui aime beaucoup l'invité de ce soir. Voilà, ça c'est pour les petites réactions. Adnan, attends, tranquillement, prends ton temps, prends un petit café, Jouba. Adnan, on va t'écouter. Réaction avec Skander et on va donner la parole aussi à Karim.
Il y a deux choses, et tu l'as souligné, Bilal, justement. Ça nous prouve que, justement, dans l'aspect sport, il y a pas mal de niches et pas mal de types de métiers qu'on peut, justement, exploiter. Et c'est vrai que ça donne la envie aux jeunes, en tout cas, ça donne des perspectives, justement, à des jeunes pour pouvoir se lancer, effectivement. Et par rapport à la petite anecdote, je pense aussi que, et c'est très important que ce que vous avez dit, c'est que dans ces moments-là, il y a des sportifs qui se sentent bien seuls, qui peuvent être des stars,
merci,
qui peuvent être justement adulés par plein de fans, etc. Mais dans ces moments-là où ils sont avec leur équipe, leur femme est en train d'accoucher, etc., et personne ne peut leur parler, ils sont là enfermés sur eux-mêmes, cette petite attention fait que je pense que ça a été le meilleur moment de leur journée et ça a été le soleil justement que vous leur avez donné. Et ouais, rien que ça, je pense qu'ils vous sont reconnaissants à vie parce que c'est des moments qui ne s'oublient pas, qui à un moment,
c'est ça,
ils se reconnectent à la vraie vie.
On peut pas oublier Escander aussi, Bayard, avec nous ce soir et on va pas l'oublier. On va essayer de le retrouver pour les émissions de Tamfou spécial Euro 2024.
Pour continuer les compliments sur Escander, honnêtement, j'invite toute la communauté de Time Sport à aller voir l'Instagram de Escander Bayard et de l'agence aussi. Tout est répertorié, tu mets tout, c'est bien parce que tu es transparent, comme tu as dit, tu n'es pas un menteur, tu es un vrai professionnel.
Ouais, ça va, toi aussi, je reconnais que c'est un menteur,
mais c'est vrai. Et après, moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu t'adresses que à des joueurs professionnels, des joueurs plus amateurs, et ta place par rapport au club, s'il te plaît, Escander.
Effectivement, pour actuellement, je suis plus proche d'avoir, parce que mon objectif est vraiment de recruter plus tard des jeunes, même des jeunes qui ont perdu l'espoir, parce que le sport justement peut permettre de rêver quand on regarde des très grands joueurs, mais on peut assister à des places VIP, enfin on peut assister à des matchs, pas forcément que dans les virages. Moi j'ai la chance de pouvoir avoir des invitations VIP et justement le but c'est de leur faire comprendre comment je suis en arrivé là, parce que moi, certes, je suis né dans le 16e à Paris.
Oui.
Je réside dans le 20e.
Oui.
Mais entre-temps, j'ai habité à Aubervilliers. D'ailleurs, mes
pas
parents.
Mal Aubert. On a Boulak qui vient d'Aubert.
Bien sûr.
Aubert. Beaucoup à Aubert.
C'est une très belle ville. D'ailleurs, mon frère et mes parents sont là-bas.
Ah bon, on passe le bonjour.
Avant de venir à l'antenne, je suis passé les voir pour avoir un peu de vitamine aussi.
Ah ben voilà.
Voilà. Et,
112.
Et par rapport au club, ta place par rapport au club, tu traites directement avec les clubs professionnels ou pas, Escander?
Oui, bien sûr. Oui, je suis en relation directe avec les team managers et les directeurs sportifs ou les présidents.
Est-ce que si je me trompe, si un futur chantier, un axe d'évolution pour toi, c'est de te rapprocher de l'éducation nationale et des écoles?
Alors, c'est surtout d'être plus proche des fédérations.
D'accord.
Mon objectif est vraiment de passer par exemple numéro 1 avec mon pays d'origine sur toutes les fédérations. Parce que j'aimerais que les pays en Afrique, donc tout le continent africain, puissent préparer, enfin, soit accueillir des équipes européennes pour mieux se préparer, afin de se comparer aussi physiquement, de voir leur niveau, et de permettre à des pépites éventuellement d'avoir une chance d'être suivies sur la saison. Exactement.
Se faire repérer.
Et exactement, se faire